Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Dans le département du Nord, l'ancien chef d'une chorale est soupçonné d'avoir violé au moins deux choristes mineurs au moment des faits, dans les années 90, dans un contexte d'emprise. Deux femmes ont porté plainte contre lui il y a quelques années, près de 30 ans après les faits. L'homme, âgé de 65 ans aujourd'hui, a été mis en examen en mars 2023 pour atteinte sexuelle et viol par personne ayant autorité. Il a été laissé libre sous contrôle judiciaire. C'est le Parisien qui a révélé cette affaire le 21 janvier. L'auteur de cet article, Nicolas Jacquard, de notre service Police-Justice, est dans Code Source aujourd'hui. Un livre a eu une importance particulière dans cette histoire, c'est Le consentement de Vanessa Springora. On va voir pourquoi à la fin de cet épisode. Pour bien comprendre, on va s'appuyer sur l'histoire de Fanny. Elle a 16 ans en 1991, elle est née en 1975 et elle est scolarisée à Marcq-en-Barœul dans le département du Nord, à l'Institut Libre. Nicolas Jacquard, est-ce que vous pouvez nous décrire son milieu, à la fois sa famille et cet établissement?
Alors oui, on parle d'un milieu assez privilégié, une famille catholique, pratiquante. L'Institut Libre à Marcq-en-Barœul, c'est vraiment une institution, on parle du creuset de l'élite nordiste. Et la famille de Fanny, c'est une famille de 8 enfants dans laquelle elle a grandi, qui va à la messe tous les dimanches. Et c'est d'ailleurs à la messe qu'elle va commencer à chanter.
Fanny a donc 16 ans en 1991 et le chant, c'est sa passion.
Oui, ça a toujours été sa passion. Elle est très douée en musique et elle a, à ce moment-là, en classe de 6e et 5e, un professeur de musique qui s'appelle Bernard de Wachter et qui va voir le potentiel de cet enfant en matière de chant et de musique.
Ce professeur, Bernard de Wachter, il est également le chef de chœur d'une chorale, d'une maîtrise, la maîtrise boréale.
Oui, la maîtrise, en fait, signifie qu'il s'agit d'une chorale de jeunes et Bernard de Wachter gère cette chorale. Et il va assez naturellement proposer à Fanny de la rejoindre, et c'est ce qu'elle fera en 1991 au moment de son entrée en classe de seconde.
Elle adore cette maîtrise, cette chorale qui lui apporte beaucoup de satisfaction.
Oui, c'est vraiment pour elle un épanouissement. On le disait d'abord, elle est passionnée par le chant, elle découvre cette passion, et puis au sein de cette maîtrise, elle va découvrir aussi une forme de vie collective, d'épanouissement collectif, le fait de chanter ensemble, de s'ouvrir voilà, à d'autres horizons, de voyager aussi, puisque la maîtrise va faire ce qu'elle appelle des sessions, c'est-à-dire en fait des semaines de répétition qu'elle va passer dans différents endroits, en France, mais aussi à l'étranger.
Au centre de l'attention, il y a donc le professeur de chant, chef de chœur, Bernard de Wachter. Est-ce que vous pouvez nous le présenter?
Alors Bernard de Wachter, c'est quelqu'un qui nous est unanimement décrit comme une personnalité presque tyrannique. C'est-à-dire que voilà, il règne sur sa maîtrise. C'est lui qui va en quelque sorte faire et défaire le destin de ces petits chanteurs. C'est lui qui va dire qui est bon, qui ne l'est pas, qui mérite d'aller plus loin, qui peut être par exemple soliste. C'est quelqu'un qui a un caractère très tranché, dirons-nous.
En février 1993, quand elle a 17 ans, Bernard de Wachter propose à Fanny d'être soliste pour un opéra. Elle accepte, mais elle est terrorisée avant l'échéance à venir. Et un soir, pendant un séjour d'une semaine de répétition dans une abbaye de la Somme à Valloire, Bernard de Wachter lui parle pour la rassurer.
Oui, parce qu'il y a une énorme pression qui pèse sur ses épaules. Fanny raconte qu'à ce moment-là, elle est quand même très très mal, qu'elle perd du poids, qu'elle est extrêmement stressée. Et puis un soir, justement, alors que la maîtrise est en retraite dans une abbaye, elle s'isole, elle se met à pleurer et Bernard de Wachter arrive derrière elle, un petit peu subrepticement, et il va la réconforter. Il va d'abord lui faire des câlins et puis très vite, ça dérape, il l'embrasse. Il l'emmène avec lui jusque dans sa chambre. Et là, elle subit une pénétration digitale. elle, mettra des années à le qualifier de viol, mais c'est comme ça qu'elle le ressent aujourd'hui.
Elle se dit quoi à ce moment-là après ça ?
À ce moment-là, elle est extrêmement perturbée puisque, elle le dit, à cet âge-là, elle ne connaissait encore rien de ces choses-là. Elle ne sait pas si elle doit trouver ça normal ou non. Lui tente de la rassurer en lui expliquant que c'est normal, qu'ils sont amoureux et qu'elle doit se laisser faire.
Les relations sexuelles deviennent systématiques avec des rendez-vous fixés chaque lundi matin.
D'abord, Bernard de Wachter va raccompagner assez régulièrement Fanny chez elle. Il va lui demander de trouver un endroit un petit peu discret. Et en fait, une fois par semaine, il va garer son véhicule sur le parking de la petite chapelle qui se trouve derrière chez les parents de Fanny. Et là, il va demander à la jeune fille de lui pratiquer des fellations. Et puis, il va prendre prétexte de lui donner des cours de direction de chœur pour qu'elle vienne tous les lundis matins à son domicile à lui. C'est ce qu'elle va faire en mentant à ses parents en disant qu'elle commence à 8h, alors qu'en fait, dans les faits, elle commence à 10h le lundi, ce qui lui laisse 2h pour aller chez son professeur.
Bernard de Wachter a 35 ans, à ce moment-là, elle 17, et Fanny sait que Bernard de Wachter entretient le même type de relation avec plusieurs jeunes filles.
Elle savait déjà que Bernard de Wachter était officiellement marié, à ce moment-là il est en couple avec son épouse, mais assez rapidement Fanny voit qu'il y a d'autres jeunes filles de la chorale sur lesquelles Bernard de Wachter a eu des visées. Il y a notamment Christelle qui est une amie de Fanny, et un jour Fanny voit Bernard de Wachter dans le lit de Christelle. Alors il est tout habillé, il ressort précipitamment de ce lit, mais à ce moment-là Fanny dit qu'elle a compris qu'il se passait quelque chose. Et puis il y a encore une autre jeune fille qui s'appelle Marie-Laure. On sait que Bernard de Wachter a commencé à entretenir une relation avec elle alors qu'elle était âgée à peine de 13 ans et demi, et cette relation va perdurer dans le temps puisque Marie-Laure deviendra la mère des enfants de Bernard de Wachter.
Bernard de Wachter divorce en 1993 ou 1994, il y a un doute sur cette date, et à partir de là, il demande de plus en plus souvent à Fanny de venir chez lui dans son appartement.
Oui, c'est une manière pour lui de renforcer son emprise sur l'adolescente. Elle-même décrit à cette période-là, en fait, des relations sexuelles de plus en plus brutales de la part de son professeur. Et elle comprend assez vite qu'en fait, cette situation, en fait, a quelque chose d'anormal. Et elle va justement tenter de s'extraire de l'emprise de Wachter.
Elle quitte la maîtrise en 1994. Fanny rencontre un jeune homme avec qui elle va se marier, avec qui elle aura deux enfants. Des années plus tard, en 2004, quand son garçon de 8 ans lui demande à chanter dans une chorale, Fanny hésite.
Oui, elle hésite parce que, bien sûr, il y a ce vécu qui est déjà traumatique pour elle, mais elle va quand même donner suite et elle voit qu'il y a justement une maîtrise qui passe en concert dans une église pas très loin de son domicile. Il se trouve que cette chorale, c'est justement la maîtrise boréale. Fanny prend sur elle, elle se dit voilà, on va quand même aller au concert. Elle se retrouve un petit peu par hasard au premier rang avec son fils. Avant la fin du concert, au moment du dernier morceau, elle se dit voilà, il faut vraiment qu'on y aille parce que je risque très clairement de retomber sur Bernard. Et ça ne loupe pas, puisque Bernard l'aperçoit, il se dirige vers elle. Comme si de rien n'était, il va lui faire des compliments sur son enfant. Ah, c'est ton fils. Il va même mettre sa main sur la tête de l'enfant. Et à ce moment-là, Fanny, elle, n'y tient plus. Elle sort en courant de l'église. Elle va vomir sur les tombes adjacentes parce que c'était un choc beaucoup trop difficile pour elle à encaisser.
Cet événement intervient en avril 2004 et l'année suivante, en 2005, Fanny croise par hasard une autre ancienne choriste devenue employée de la maîtrise boréale.
Oui, cette jeune femme se prénomme Anne-Lise. Elle a été choriste au même moment que Fanny, donc 10 ans auparavant. Et puis, à ce moment-là, elle travaille pour le compte de l'association qui gère la chorale. Et elle discute comme deux vieilles copines. Et Anne-Lise dit à Fanny, « Ah, bah tu vas rire, tiens, au fait, est-ce que tu sais que Bernard de Wachter a divorcé de Marie-Laure ?» Donc Marie-Laure, c'est cette jeune choriste dont il a fait finalement son épouse. Et à ce moment-là, Fanny ne rigole pas du tout. Elle sort de ses gonds et elle dit à Anne-Lise, non mais tu te rends compte de ce que tu me dis. En fait, tu travailles pour le compte d'un pédophile. C'est quelqu'un voilà, qui a ce type de comportement-là. Et à partir de ce moment-là, justement, les choses vont se débloquer.
À Anne-Lise, cette employée, prend conscience à ce moment-là que ce qu'il se passe n'est pas acceptable et elle en parle au directeur de l'association qui chapeaute la maîtrise, il s'appelle Marc, il tombe des nues, il mesure la gravité des faits dénoncés et il réagit.
Oui, Marc, c'est vraiment le premier adulte de la maîtrise qui va prendre conscience de l'ampleur du phénomène. Alors lui-même n'en était absolument pas au courant, contrairement à d'autres adultes de la maîtrise d'ailleurs, qui plus ou moins savaient ce qui se tramait dans leur dos et savaient ce que Bernard de Wachter faisait, mais c'est pas du tout le cas de Marc. Et lui, tout de suite, il va prendre les choses très au sérieux, il va écouter Fanny, il va également écouter Christelle, il va tout de suite, à partir de ces témoignages-là, diligenter une enquête interne, et très rapidement, à ce moment-là, on est en août 2005, il licencie Bernard de Wachter, il licencie aussi Didier, qui était l'administrateur de la chorale, et qui était un petit peu le binôme de Bernard, parce que Marc s'est rendu compte qu'en fait, Didier, l'administrateur, savait ce qui se passait. Donc ces deux personnes-là sont tout de suite mises à pied, licenciées, et puis, dans la foulée, Marc, au nom de l'association, transmet l'intégralité des témoignages qu'il a pu recueillir à la justice et au procureur de la République de Lille.
Une enquête est ouverte, elle est confiée à la Brigade des mineurs de Lille. Entre mi-2005 et mi-2008, en l'espace de 3 ans, les policiers interrogent des dizaines de personnes qui ont fait partie ou qui font partie de la maîtrise. Nicolas Jacquard, en résumé, qu'est-ce qu'il ressort de toutes ces auditions ? Fanny était loin d'être un cas isolé, c'est ça ?
C'est exactement ça. Alors d'abord, on peut noter que quand même, pour l'époque, si je puis dire, le travail policier est véritablement fait, puisque, vous le disiez, on a près de 60 personnes qui sont entendues dans le cas de cette affaire, ce qui est quand même assez conséquent. Et assez rapidement, on va se rendre compte qu'en fait, c'était presque un système de prédation qui était organisé par Bernard, puisque on pense, et c'est l'enquête qui va le mettre en évidence, qu'il a eu des relations sexuelles avec près d'une vingtaine de jeunes filles sur 10 à 15 ans d'exercice au sein de la maîtrise. Une petite vingtaine de jeunes filles qui, pour certaines, étaient mineures, pour d'autres, étaient majeures. Et c'est là toute la difficulté de cette enquête qui va être de montrer s'il y avait consentement ou non et où s'arrête ce consentement et où commence l'emprise.
Nicolas Jacquard, visiblement, Bernard de Wachter ciblait des jeunes filles avec le même profil.
Alors ce sont souvent des jeunes filles brunes, jolies, qui sont talentueuses, qui sont le plus souvent alto. On a aussi des jeunes filles qui sont toutes à ce moment-là un petit peu en situation de mal-être, qui au moment de l'adolescence sont parfois dans des familles assez conservatrices vers lesquelles elles ne peuvent pas se tourner, auprès desquelles elles ne peuvent pas s'exprimer, et lui va jouer un petit peu de ses peurs, de ses atermoiements, de ses rébellions, et il va justement cibler un petit peu toujours le même type de filles. On a même, et c'est un témoin qui nous le dit, le sentiment que peut-être il repérait ses proies, j'allais dire, dès les premières années de collège et qu'il se disait, tiens, telle fille en 6e ou en 5e, à un moment, elle chante, elle se débrouille bien, eh bien, je lui demanderai de venir dans la maîtrise. Cela reste une hypothèse, mais c'est en tout cas comme ça que certains témoins nous présentent les choses.
Une jeune fille qui se sentait victime de Bernard de Wachter et dont vous avez parlé, Christelle, s'est suicidée pendant cette enquête en 2006.
Quelques semaines seulement après son audition par les enquêteurs, elle se donne la mort. Alors, on ne peut pas aujourd'hui dire que ce geste fatal est uniquement lié à ce qu'elle a vécu au sein de la maîtrise, mais en tout cas, ses proches, ceux qui l'ont connue, pensent que ça a joué. Et ce qui accrédite cette hypothèse-là, c'est aussi que dans le témoignage que Christelle a laissé auprès de Marc, le directeur de la maîtrise qui a révélé les faits, elle explique qu'en fait, elle est absolument lasse de la manière dont les choses se sont passées, que judiciairement, à ce moment-là, Bernard n'est pas encore inquiété, qu'elle a le sentiment d'avoir témoigné, mais de ne pas avoir été entendue et puis surtout de ne jamais avoir été protégée en tant qu'adolescente au sein de la maîtrise.
Bernard de Wachter est entendu le 21 août 2008. Qu'est-ce qu'il dit aux enquêteurs et est-ce qu'il reconnaît les faits ?
Alors d'abord, il va commencer à nier. Il dit que il n'a eu des relations qu'avec des jeunes filles majeures, qu'elles étaient toutes absolument consentantes et qu'il ne voit pas où est le problème. Et puis, les policiers vont le pousser un petit peu dans ses retranchements. Ils vont lui dire, mais écoutez, Fanny, quand vous avez commencé une relation avec elle, elle était mineure, elle avait 17 ans. Et puis, il y avait aussi Marie-Laure. Et là, Bernard va reconnaître les faits à demi-mot. Il dit oui, mais alors à ce moment-là, il n'y avait que, entre gros guillemets, des fellations. Et à ce moment-là, les policiers lui disent non, mais vous avez quand même eu d'autres rapports avec elle. Oui, mais c'était des rapports absolument normaux, tels qu'on pouvait en avoir en couple. Donc, en quelque sorte, il reconnaît en creux ce qu'il a pu commettre comme agissement. On lui soumet les prénoms d'un certain nombre d'autres jeunes filles avec lesquelles il a eu des relations, à commencer par justement Marie-Laure. Elle dit oui, mais attention, sa maman l'avait fait spécialement émanciper à 15 ans pour que nous puissions vivre au grand jour cette relation. Donc, quelque part dans ses dénégations, il va lui-même reconnaître une partie des faits qui lui sont reprochés.
Nicolas Jacquard, 4 jours après cette audition, le 25 août 2008, l'enquête est classée sans suite.
Oui, et c'est véritablement surprenant puisque, on l'a dit, Bernard de Wachter a reconnu une partie des faits et pourtant seulement 4 jours après son audition, l'enquête est close. On découvrira plus tard qu'en fait elle est close au motif que les faits sont insuffisamment caractérisés.
13 années passent et au début 2021, un ancien pianiste de la chorale se suicide, un homme qui était proche de Bernard de Wachter. 500 personnes assistent à ses obsèques dans l'église, mais pas Fanny. Elle ne voulait pas risquer de recroiser Bernard de Wachter. À ce moment-là, cela fait un an que le livre de Vanessa Springora est sorti, livre qu'on a cité au début de cet épisode, « Le consentement ». En résumé, l'autrice raconte la relation traumatisante qu'elle a eue avec un écrivain renommé, Gabriel Matzneff, quand elle avait seulement 14 ans. Fanny lit ce livre et elle s'y reconnaît.
Il y a d'une part un chemin très long et très douloureux qui a été fait par Fanny comme par d'autres victimes de Bernard de Wachter, parce qu'il leur faut toutes ces années pour comprendre de quoi elles ont été les victimes. Et puis dans ce chemin-là, il y a des étapes très importantes et la sortie, la lecture du consentement de Vanessa Springora est une de ces étapes. Et Fanny nous le dit comme ça, elle nous dit voilà, c'est très exactement la même chose que j'ai vécue au même âge. Et je m'identifie presque dans chacune des phrases, des mots de Vanessa Springora. Elle se dit qu'en fait, la relation était d'abord une relation d'emprise. Ça pose la question du potentiel amour entre des jeunes filles qui ont pour certaines à peine 15 ans et puis un Bernard de Wachter qui a 35 ans au moment des premiers agissements. Et donc, elles se rendent compte qu'en fait, cet amour était absolument vicié et qu'elles avaient affaire à justement une forme de prédateur, à quelqu'un qui savait particulièrement bien jouer avec les codes, qui savait voilà se rendre désirable auprès de ces jeunes filles et qui justement profitait en quelque sorte de leur jeune âge et d'une forme de crédulité.
Fanny décide de prendre contact avec une avocate du barreau de Lille, Audrey Jankilevitch, avocate qui se lance dans un travail d'archéologie judiciaire.
Très vite, elle s'est dit, voilà, on va monter une forme de plan d'attaque judiciaire. Et la première étape de ce plan, c'était d'abord de savoir ce qu'il était advenu de la procédure de 2005-2008. D'abord, elle se tourne vers le parquet de Lille qui lui dit, oui, nous avons trace de cette procédure, mais pas chez nous. En fait, il faut aller voir au niveau du tribunal de Douai. Et c'est ce que font Fanny et son avocate. Et par chance, il se trouve que Douai va retrouver le dossier qui est archivé. On sait parfois que la justice peut perdre justement des dossiers anciens, des preuves, voire des scellés. Mais là, dans ce cas précis, en fait, le dossier était parfaitement archivé. Et Fanny et son avocate vont se plonger dedans pour savoir ce qu'il s'était passé et surtout quelles avaient été les suites données à la procédure de 2005-2008.
Et c'est là qu'elles apprennent que l'enquête a été classée sans suite. Nicolas Jacquard, les victimes n'avaient pas été officiellement prévenues à l'époque.
Non, elles le découvrent vraiment à ce moment-là. D'abord, on le disait qu'il y a ce classement sans suite, alors même que Bernard de Wachter avait reconnu une partie des faits. Et puis surtout, ce qui est contraire à la pratique judiciaire, c'est qu'en fait, les familles, les victimes, n'ont absolument pas été prévenues de ce classement sans suite. Donc c'est comme si l'affaire voilà, avait été en quelque sorte étouffée et s'était éteinte un petit peu en catimini.
À l'époque, cette enquête avait été ouverte par le parquet à la suite du signalement de l'association qui dirige la maîtrise boréale. Elle n'a donc rien donné, elle a été classée sans suite. On sait pourquoi ?
On était à l'époque dans une définition du viol qui était ce qu'elle était, c'est-à-dire forcément un acte violent avec un acte de contrainte. Et cette notion d'emprise, d'absence de consentement n'était à cette époque-là pas suffisamment prise en compte. Et puis aussi, on ne peut pas omettre le fait, et c'est l'avocate de Fanny qui nous le dit, que l'on se trouve à ce moment-là dans un milieu privilégié et que dans cette bourgeoisie locale, on a peur du scandale. Et c'est aussi pour ça que l'enquête va s'éteindre assez discrètement.
Près de 30 ans après les faits, Fanny porte plainte, elle se constitue partie civile, ce qui entraîne la nomination d'un juge d'instruction. Cette magistrate relance les investigations.
Elle va mener un travail d'enquête comme si, en fait, l'affaire débutait aujourd'hui et comme s'il n'y avait pas eu cette première procédure 20 ans plus tôt. Ce qui fait qu'elle va réentendre un certain nombre de témoins. Elle va vraiment se faire une idée objective du dossier.
Un jour, au mois de mars, Fanny est reçue par cette juge d'instruction.
Cette fois, la situation est radicalement différente de ce que Fanny avait vécu 20 ans plus tôt, puisque quand elle avait été entendue une première fois en 2005, elle avait vraiment eu le sentiment presque d'être elle-même la coupable, d'être passée sur le grill par les policiers qui lui disaient « Mais attendez, madame, vous avez continué à entretenir cette relation avec votre professeur, vous y retourniez, vous n'avez pas pris la fuite, en quelque sorte, presque, vous êtes coupable. » Et là, cette fois, les choses ont vraiment changé pour Fanny. Elle est entendue par cette magistrate et elle va expliquer exactement quels étaient les tenants et les aboutissants de cette relation.
Quelques jours plus tard, le lundi 20 mars 2023, Bernard de Wachter est entendu à son tour par la juge d'instruction. L'ancien chef de chœur a pris de l'âge, il a maintenant 65 ans et sa santé est défaillante.
Oui, en tout cas, c'est ce que nous disent ses proches. C'est aujourd'hui un retraité. Cette audition va tourner court puisqu'il choisit de garder le silence, ce qui est son droit le plus strict. Par contre, ça ne l'empêche pas d'être mis en examen par la magistrate, et il est mis en examen pour viol et atteinte sexuelle, soit pour l'intégralité des faits commis sur Fanny en 1992, 93 et 94.
Bernard de Wachter est placé sous contrôle judiciaire en attendant son éventuel procès. Il a interdiction de quitter le territoire et d'exercer une activité en lien avec des mineurs. Nicolas Jacquard, comment le défend son avocat aujourd'hui ?
Alors son avocat, lui, va baser sa défense sur la question de la prescription, parce que ce que nous dit maître Loïc Bussy, c'est le nom de l'avocat de Bernard de Wachter, c'est que 30 ans après les faits, il est extrêmement difficile de se défendre. Bien évidemment, la mémoire des témoins de cette époque va être un peu balbutiante, parce que comment se rappeler exactement de ce qui a pu se passer à cette période-là? Et puis, d'une manière presque philosophique, maître Bussy nous dit, c'est aussi le but de la prescription en matière de justice, c'est quelque part d'apaiser la société, d'avoir une forme de droit à l'oubli. Et si aujourd'hui on exhume des faits aussi anciens, eh bien quelque part c'est une non-prescription permanente et ça pose un problème de droit et de morale. En tout cas, c'est sa ligne de défense.
Pour l'instant, Bernard de Wachter n'est que mis en examen. On ne sait pas s'il y aura un procès un jour. J'imagine que c'est ce qu'espère Fanny.
Oui, tout à fait, ce qu'espère Fanny et puis aussi d'autres victimes de Bernard de Wachter, puisqu'il y en a au moins une qui elle-même, à son tour, après Fanny, a déposé plainte contre lui. Ce procès, ce serait aussi pour elle une manière d'être enfin définie officiellement par la justice en tant que victime. Maintenant, est-ce que ce procès aura lieu un jour ? Rien n'est moins sûr, puisque au terme de l'instruction, c'est la juge qui devra dire si elle a des éléments suffisants en droit pour pouvoir renvoyer Bernard de Wachter devant un tribunal.
Merci à Nicolas Jacquard. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Cet épisode a été produit par Raphaël Puyo et Barbara Gouy. Réalisation, Pierre Chaffanjon. Si vous aimez Code Source, parlez-en autour de vous, laissez-nous un commentaire ou des petites étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez nous écrire à cette adresse, codesource@leparisien.fr. Code Source, c'est un nouveau sujet d'actualité chaque soir, du lundi au vendredi. Et le samedi, ne ratez pas Crime Story, le podcast de faits divers du Parisien.
Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.